l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. Le déménagement nous impose une charge mentale lourde, non seulement à cause de la préparation des cartons et du changement d'environnement, mais aussi de tous les papiers administratifs que l'on doit préparer. Pour alléger ce travail, la municipalité de Séoul propose un service numérique dédié à la délivrance des dossiers liés au déménagement à titre expérimental depuis hier. Le nouveau service, appelé ISAON, permet d'obtenir 6 sortes de documents en fichier électronique sur l'application mobile Portefeuille de Séoul, basée sur la technologie blockchain. Ce grâce au système Mes données publiques du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, consistant à donner aux habitants accès à leurs informations personnelles enregistrées dans les établissements publics. Les papiers disponibles sont le contrat électronique immobilier, l'extrait du registre d'état civil, le certificat du versement de l'assurance maladie et le certificat de revenus, entre autres. Les documents délivrés peuvent être conservés sur le smartphone. Avec les fichiers téléchargés, il est possible de demander un prêt bancaire pour la caution du logement auprès de la banque Shinhan. Il suffit de quelques clics pour envoyer les dossiers nécessaires sur l'application de la banque nommée Shinhan Seoul. Une autre fonction, si on accède à l'application de l'exécutif gouvernement 24 par le biais d'ISAON, on peut déclarer le changement d'adresse juste avec un téléphone portable sans se déplacer à la mairie. La municipalité s'attend à ce que le service permette aux habitants d'économiser considérablement le temps pour réaliser les démarches administratives lorsqu'ils déménagent. Le système du service a été conçu en collaboration avec le Conseil immobilier de Corée et la Banque Shinhan, avec le budget accordé par le ministère de la Science et d'Éthique et l'Agence des données de Corée. Bientôt, les personnes âgées devront réussir un test en réalité virtuelle pour continuer à prendre le volant. L'Agence nationale de la police projette de limiter la conduite automobile des seniors sous certaines conditions à partir de 2025. L'examen de conduite virtuelle permettra d'évaluer la vigilance des chauffeurs âgés lors de la circulation nocturne ou sur l'autoroute. En fonction du résultat, il leur sera interdit de conduire la nuit. Pour la création du test, la police versera un budget de 3,6 milliards de won, soit 2,7 millions d'euros pendant 3 ans. La nécessité d'imposer une limite à la conduite des seniors est en effet un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité ces jours-ci, car le nombre d'accidents provoqués par ces derniers ne cesse d'augmenter. En avril dernier, à Séoul, une voiture d'un octogénaire a foncé dans un salon de coiffure et une cliente de 30 ans en est morte. Plus récemment, il y a 2 mois, à Busan, un conducteur de 86 ans a percuté un bus et a fait 9 blessés. Les chauffeurs de plus de 65 ans sont responsables de 23,4% des accidents routiers l'année dernière, contre 17,7% en 2016. En 2020, 11,1% des conducteurs étaient des personnes âgées seulement, à savoir 3,7 millions d'individus. Ce chiffre devrait s'accroître avec le temps. Aujourd'hui, les plus de 65 ans doivent passer un test d'aptitude tous les 5 ans et les plus de 70 ans tous les 3 ans. Ils doivent aussi recevoir une formation sur la sécurité routière. L'examen comprend l'évaluation de la réactivité visuelle et auditive, la mémoire et la vigilance, mais il est souvent jugé inefficace, d'autant qu'il n'évalue pas la capacité de la conduite réelle. Le gouvernement central et les administrations locales mettent en œuvre des mesures incitatives pour encourager la restitution du permis de conduire des aïeux. Par exemple, la municipalité de Séoul offre une carte de transport en commun de 100 000 won ou 75 euros. Or, les participants ne sont pas nombreux. L'an dernier, seuls 2,2% des seniors ont rendu leur permis. Selon certains conducteurs, ce n'est pas facile de renoncer au permis quand la ville n'est pas bien desservie par les transports publics ou qu'ils ont une mobilité réduite. De plus, rendre le permis leur apporte un sentiment de perte lié au vieillissement. Ce nouveau dispositif n'est pas salué par certains, qui le qualifient de discriminatoire. En Corée du Sud, les personnes âgées désignent souvent les plus de 65 ans. Mais pour eux, 65 ans reste encore jeune à l'ère où l'espérance de vie dépasse les 80 ans. Et les autorités publiques devraient plutôt se concentrer sur la lutte contre l'alcool au volant. Ils craignent également leur impact sur la subsistance des habitants pour qui la conduite constitue le moyen de vivre. Face aux critiques, la police a déclaré que l'âge concerné et les conditions de conduite seraient déterminées à la suite de la discussion des experts. L'agence des sapeurs-pompiers de la province de Chungcheong du Sud propose un service d'interprétation pour les étrangers qui ne parlent pas coréen couramment. Les interprètes bénévoles aident à la communication de ces derniers 24 heures sur 24. En janvier dernier, un Russe habitant dans cette région a tout à coup ressenti un trouble de la respiration et a appelé le 119, le numéro d'urgence. Dans l'agence, aucun pompier ne comprenait le russe, mais grâce au système d'interprétation basé sur la conversation téléphonique à 3, les agents pouvaient saisir la situation du malade et lui envoyer directement une ambulance. En février dernier, un Chinois, qui était en quarantaine à la suite de son entrée dans le pays, a contacté l'agence pour se renseigner sur la procédure du test de dépistage une fois avoir terminé le confinement. Là aussi, avec l'assistance d'un interprète, les responsables pouvaient l'informer en détail de l'emplacement du centre de test et du mode de déplacement. L'agence régionale a reçu 1484 appels de demande d'aide des étrangers ces trois dernières années. Le chiffre continue à augmenter d'année en année. La plupart d'entre eux est lié aux problèmes de la santé, comme le mal de ventre, le mal de tête et la haute fièvre. La langue étrangère la plus utilisée était l'anglais, avec 16,2%, suivi du russe, 9%. Viennent ensuite le vietnamien, le chinois et l'ouzbek. 26% des signalisations étaient faites entre minuit et 6 heures du matin, créneau durant lequel il est difficile de faire appel aux autres. En effet, la province de Chungcheong du Sud compte la proportion la plus importante d'étrangers sur tout le territoire, soit 5,6%. Elle est la cinquième région qui en abrite le plus avec 123 000 individus. Les étrangers qui ne peuvent pas s'exprimer en coréen ont du mal à demander des secours en cas d'urgence. C'est pourquoi l'agence des sapeurs-pompiers a élaboré ce système. En ce moment, 11 langues sont disponibles, dont le cambodgien, le thaïlandais, le népalais et le tagalog. L'agence prévoit d'élargir ce dispositif à d'autres langues, comme le mongol, et de mettre en place des récompenses pour les interprètes bénévoles qui travaillent pour le bien-être social. Le service d'interprétation d'urgence est également disponible dans le Chungcheong du Nord et à Incheon.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Eh oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 2 décembre. Les habitants du royaume de Gaïa auraient-ils élevé des chiens comme animal de compagnie? Dans une tombe humaine datant du 5e ou 6e siècle et située à Changnyang dans la province de Gyeongsang du Sud, les restes de trois chiens ont été récemment découverts. Parmi eux, seulement un avait un état mesurable. Il faisait 48 cm, l'équivalent d'un Jindo, une race de chiens originaire de Corée. Selon l'Institut de recherche sur le patrimoine culturel de Gaïa, il y a une forte possibilité que ces canidés soient des animaux de compagnie et qu'ils n'aient pas été enterrés en tant qu'offrande. Cette supposition est appuyée sur le fait que leur dépouille était située dans une petite excavation construite volontairement et indépendamment du trou du cercueil de l'homme. Cet endroit mesurant 1 mètre de côté était délimité par des pierres. C'est la première fois que les restes de chiens sont trouvés à l'intérieur d'une telle structure. D'après un chercheur chargé de l'exhumation, les os des canidés découverts jusqu'à présent dans les tombeaux anciens étaient toujours dispersés. Mais cette fois-ci, les squelettes avaient leur forme intégrale. De plus, compte tenu du fait qu'une pièce spéciale a été mise en place seulement dans le but de poser leur dépouille, il semble certain que ces animaux étaient cajolés par leur maître de leur vivant, peu importe qu'ils soient des chiens de garde ou des chiens de compagnie. L'Institut de recherche de Gaïa analysera les ADN relevés pour tenter de connaître leur race. Un autre point remarquable, l'emplacement du canidé. Ses restes étaient situés dans le coin nord-ouest du cercueil du défunt. En effet, tous les autres chiens retrouvés dans les tombes à Xiangyang étaient enterrés entre les cadavres humains et le monde extérieur, comme s'ils jouaient un rôle de gardien. Cela rappelle la sculpture d'animal exhumé au tombeau du roi Muliang du royaume de Baekje à Kongju, dans la province de Chongcheng du Sud. Elle servait à protéger un lieu saint. En effet, en dehors de cette découverte récente, une autre dépouille de chien présumée d'être un animal de compagnie a été révélée au monde en juillet dernier à Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord. Ce tombeau a également été daté entre le 5e et le 6e siècle. Dans un trou du cercueil, entouré de planches de bois, les chercheurs ont pu trouver les ossements d'un homme de 1m80, soit le plus grand parmi les restes des habitants de la dynastie de Shilla qui ont été retrouvés jusqu'à présent. La dépouille du canidé était placée sur les cuisses du défunt, comme si celui-ci le tenait dans ses bras. Fabriquer des vêtements pour femmes aussi solides que ceux pour hommes. C'est la philosophie de Fuse Seoul, marque de vêtements unisexes fondée par Kim Soo-jang. Beaucoup auraient pensé que la différence des habits des hommes et des femmes reste principalement dans le design. C'est ce que croyait aussi une jeune femme de 28 ans, avant de monter sa propre marque en 2018. Kim vendait ses tenues ordinaires pour femmes en ligne après avoir terminé ses études de mode. Un jour, elle a porté un pantalon de son petit frère, ce qui lui a donné un déclic. Il était tellement confortable par rapport à celui qu'elle enfilait jusqu'à ce jour. Pour savoir la différence, elle a comparé les vestes et les pantalons des deux sexes à prix similaire de 7 grandes marques de mode. La différence était flagrante, allant de la matière jusqu'au type de couture, en passant par le nombre de poches. Les tenues pour hommes étaient suffisamment amples pour permettre de bouger confortablement le corps. Mais à propos des fringues pour femmes, on dirait qu'elles étaient designées seulement dans le but de souligner la ligne du corps féminin. Leurs toiles et contours étaient souvent d'une qualité plus basse que ceux des hommes. Certains prétendaient que cette différence résulte du fait que les consommatrices sont plus sensibles à la tendance et les entreprises devaient réduire le coût de la production. Pourtant, pour l'entrepreneuse, si les marques proposent plus de diversité dans le rayon des femmes, ce n'est pas pour respecter le goût des clientes, mais simplement pour les pousser à dépenser davantage. Les consommateurs n'ont pas d'autre choix que d'acheter ce que les entreprises leur proposent. C'est justement pour donner une autre alternative aux femmes que Fuse Seoul est née en 2018. La jeune patronne a fait fabriquer des tenues pour femmes plus fonctionnelles mais résistantes, en optant pour des matières de qualité et une couture plus solide. Elle a également ajouté des poches sur les pantalons et les vestes, tout comme les habits pour hommes. Le produit le plus populaire est le costume pour femmes. Kim avait toujours envié les hommes qui vont au bureau tous les jours avec quasiment le même costume en changeant seulement de cravate. Et elle a réalisé son fantasme, faire connaître à une grande partie de la gente féminine ce qu'est un vêtement correctement fabriqué. Elle a diversifié la catégorie jusqu'aux habits de sport, aux sous-vêtements et aux hanbok du quotidien. Sa tentative a fonctionné. Sans grand marketing, la marque continue d'attirer des clients grâce au bouche à oreille et intéresse même les hommes. Son chiffre d'affaires atteindra bientôt les 5 milliards de won, soit 3,7 millions d'euros cette année. Les toits-terrasses des bâtiments représentent un quart de la surface de la Corée du Sud. Quand on voit depuis le ciel les quartiers résidentiels du pays, ils sont quasiment tous verts. C'est comme si la loi obligeait les habitants à unifier la couleur. En 2012, l'acteur américain Will Smith a visité le pays. Il a pris en photo ce paysage unique depuis l'avion et l'a publié sur ses réseaux sociaux. Les internautes occidentaux étaient surpris, à tort, de voir que les Sud-Coréens ont tous un terrain de tennis sur leur toit. Mais pourquoi alors les Sud-Coréens ont-ils peint leur toit en vert? En effet, le vert est la couleur naturelle de l'oxyde de chrome, la matière principale de la peinture d'étanchéité. Étant donné que le pays du matin clair a quatre saisons bien marquées et que la différence des températures est importante, les immeubles connaissent souvent des fissures et des fuites d'eau. De plus, compte tenu de la quantité de pluie qui tombe pendant la mousson d'été, il est indispensable d'étanchéifier le toit. S'y ajoute le fait que les habitants apprécient plutôt cette couleur. Selon un responsable d'une entreprise de peinture, auparavant, pour choisir une autre couleur de peinture, il fallait payer un coût supplémentaire et la plupart des gens ont préféré opter pour cette couleur de base. Il existe aussi une rumeur selon laquelle le gouvernement a initié le projet alors que le nombre de touristes étrangers a bondi en Corée du Sud après les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. L'exécutif voulait donner une image de forêt aux villes au détriment de celle de la jungle de béton. Pourtant, d'après le journal Hanguk Ilbo, aucune collectivité régionale ni aucune société de peinture n'a prouvé l'existence d'un tel décret administratif. Cependant, ce paysage aérien vert est en train d'évoluer, en particulier dans les villes récemment aménagées. Leurs toits terrasses sont principalement blancs ou gris, un choix fait pour économiser le coût de la climatisation. En effet, contrairement au vert, qui absorbe la lumière, le blanc en reflète la majorité et permet de rendre l'immeuble moins chaud en été. Cette couleur permet de baisser la température intérieure de 2 degrés. La teinte grise est une solution qui a un effet de blocage de lumière moins important, mais qui permet de donner l'impression que le toit est moins sale.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de Sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Au programme de cette édition, un opéra retraçant la vie de la peintre coréenne Na Hye-sok à Séoul, un choc des générations entre Jang Sa-hik et Lee Hee-moon au centre d'art de Gyeonggi à Suwon, le dernier concert de l'année de l'orchestre symphonique de la KBS au centre d'art de Séoul et une exposition de jouets anciens européens au centre d'art Seoul Wave. Bon plan de sortie, c'est parti! Un opéra sur la vie de la peintre coréenne Na Hye-sok sera présenté le 16 décembre au CG Azit Gwanghae-chang à Séoul. Intitulé Modern Girl Na Hye-sok, cette œuvre emmène les spectateurs dans une époque où la place des femmes n'était pas reconnue dans la société coréenne. Née en 1896, Na Hye-sok étudie la peinture occidentale au Japon. À son retour en Corée, elle devient la première femme coréenne à exposer ses peintures à huile. Elle est aussi une féministe avant l'heure. Elle publie de nombreux écrits dénonçant les injustices envers les femmes. Mariée à un diplomate, elle provoque le scandale en tombant amoureuse d'un autre homme lors d'un séjour à Paris. Après son divorce, elle suscite encore une fois la controverse en publiant un texte intitulé « La confession d'un divorce » dans lequel elle remet en question les mœurs imposées aux femmes. En 1948, à l'âge de 52 ans, elle meurt seule dans un hôpital pour sans-abri. Le spectacle sur cette femme hors du commun est écrit par Han Ji-hoon, composé par Han Dae-sop et mis en scène par Cho Hoon-bi. Deux artistes de différentes générations, le chanteur populaire Jang Sa-hik et le musicien de fusion Lee Hee-moon, se réunissent pour un concert le 19 décembre au centre d'art de Gyeonggi à Suwon. Jang Sa-hik possède un timbre et une voix uniques qui font de lui l'un des chanteurs les plus appréciés du pays. Lors de cette soirée, le vocaliste de 72 ans, entouré de ses musiciens de talent, interprétera plusieurs de ses chansons à succès, dont notamment « Allons voir les fleurs » et « Églantine ». Lee Hee-moon, âgé de 45 ans, a fait ses débuts en 2008 comme chanteur traditionnel spécialisé dans les Gyeonggi Minyo, les chansons folkloriques originaires de Séoul et de la province de Gyeonggi, avant de se retourner vers un genre bien particulier qui mélange musique traditionnelle, jazz et rock. Connu également pour ses tenues excentriques sur scène, cet ancien membre du groupe de musique traditionnelle fusion Sing Sing se produira en compagnie de sa nouvelle bande éphémère Obang Suiga, formé avec le duo Nom Nom et le groupe Osang Wesol. L'orchestre symphonique de la KBS montera sur la scène du Centre d'art de Séoul le 24 décembre pour son dernier concert de l'année. Il s'agit aussi du 773e concert régulier de cette formation créée en 1956. C'est également l'occasion pour l'orchestre de présenter son nouveau chef principal et directeur musical, Pietari Inkinen, qui entre officiellement en fonction le 1er janvier 2022. Âgé de 41 ans, le chef finlandais a commencé sa carrière musicale comme violoniste. Il est actuellement chef principal de la Philharmonie de la Dutch Radio de Saarbrücken-Kaiserslautern et de l'Orchestre Philharmonique du Japon. En première partie de concert, l'orchestre interprétera Finlandia de Sibelius, arrangé pour chœur, en guise d'hommage au pays natal de son nouveau chef. La seconde partie du concert sera consacrée à la symphonie numéro 9 en ré mineur chorale de Beethoven, le chœur métropolitain de Goyang, le chœur motet de Séoul et plusieurs chanteurs et chanteuses accompagneront la formation lors de cette soirée. Petit rappel au sujet de l'exposition de jouets anciens européens qui se tient au Centre d'art Seoul Wave depuis le 19 août dernier et ce jusqu'au 2 janvier prochain. Baptisé Merveilleux magasin de jouets, les grandes histoires des petites choses, cette exposition réunit plus de 500 jouets créés entre la seconde moitié du 19e siècle et le milieu du 20e dans des pays européens comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Belgique. Poupées, ours en peluche, voitures ou encore dinettes, ces jouets raviveront vos souvenirs d'enfance, mais également en tant que témoin d'une époque et d'une culture, et vous permettront de survoler un pan de l'histoire de l'Europe. Inauguré en 2020, le centre d'art Seoul Wave est connu pour être construit comme un bateau qui flotte sur le fleuve Han. Il offre aux visiteurs une vue magnifique sur la ville et le fleuve. Cette édition de Bon Plan de Sortie est maintenant terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Lee Ji-eun à la rédaction avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.